à différents niveaux et toutes les choses, c'est parce que vraiment, le niveau d'appréciation il est différent pour chaque personne. Il y a des personnes qui sont très reconnaissantes pour tout ce que Dieu a fait, continue de faire. Puis il y a des personnes qui le sont moins reconnaissantes. Et puis c'est ça qui fait toute la différence pour expérimenter le Dieu Tout-Puissant dans nos vies. Brother Hagin avait été devant Dieu un jour, puis il était vraiment concerné parce qu'il y avait une personne dans l'église qui était fidèle à toutes les réunions de prière, puis toujours là, fervente, assise dans l'église. Puis il disait, « Seigneur, pourquoi cette personne-là a tant de misère à voir dans sa vie des résultats flagrants? C'est tellement une personne dédiée. » Et puis Dieu lui avait montré comme une ancienne balance avec deux plateaux. Puis Dieu avait dit, quand son niveau de louange et de reconnaissance va être équivalent à son niveau de demande, il dit, ça va être plus facile pour elle de recevoir. C'est que des fois, on oublie, on est tellement concerné par les choses autour de nous, les choses qui viennent contre nous, les circonstances. On est tellement concerné par toutes les choses qu'on dirait qu'on oublie le Dieu Tout-Puissant qui est grandiose puis est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Amen. On dirait qu'on oublie de le reconnaître dans toutes nos voies, justement. Alors, on va aller à Deutéronome 8, parce que je veux qu'on voit quelque chose à propos des Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert. Et puis, Dieu parle à Moïse. Voici ce qu'il dit à propos de tout le peuple. Dans Deutéronome 8, verset 1, il dit, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez. » Voyez-vous, il y a une raison. « Afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Et là, je vais expliquer les choses. « Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'Éternel ne vit, que l'homme, je veux dire, ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Alors, il y a plusieurs personnes, des fois, qui vont prendre cette écriture-là et qui vont dire, « Tu vois-tu, ça arrive des fois que le Seigneur, il va t'humilier, là. » Non, je vais vous expliquer ce que le mot « humilier » veut dire. Première des choses, on est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et ça, c'est ce qu'il a voulu depuis le départ, qu'on soit exactement comme lui. Alors, il n'a pas l'intention de défaire ce qu'il a fait. Puis, il n'a pas l'intention d'écraser personne et de dire, « Là, maintenant, tu ne ressembleras plus à mon image et à ma ressemblance. » Amen. C'est important de connaître le cœur de Dieu. Amen. Parce que si tu ne connais pas que Dieu y est bon, que Dieu y t'aime, que Dieu, quand il a créé la terre, il a tout créé l'univers au complet pour satisfaire tous tes besoins. Il y en a qui sont satisfaits avec un chien, un chat, puis des petits poissons rouges. Mais Dieu, il a créé des multitudes de variétés d'animaux et même de poissons et de toutes sortes de choses pour vraiment plaire à l'humain. Amen. Il n'était pas obligé d'en faire autant. S'il avait su que le monde se contenterait avec un chien et un chat et des poissons rouges, il ne saurait pas fatiguer les méninges. Mais voyez-vous, quand il dit ici, afin de t'humilier, vraiment ce que ça veut dire, c'est que qui les a fait errer dans le désert, vous savez très bien que s'ils ont erré pendant 40 ans, c'est parce qu'ils ont été mécontents tout le temps que Dieu les avait fait sortir d'Égypte. À toutes les fois qu'ils manquaient de quelque chose, ils étaient mécontents. « Ah ben là, on est tanné, on veut manger du pain, on était mieux en Égypte, on veut avoir de l'eau, on veut ça, tu nous as emmenés ici pour mourir. » Il était toujours mécontent, puis il était toujours en train de chialer. Pourtant, Dieu leur avait donné du tout cuit. Vous savez, quand il les a fait sortir de l'Égypte, Dieu a fait des miracles par-dessus miracles et des prodiges. Et vraiment, Dieu les a donné du tout cuit dans la bouche. Amen. Ils ont sorti de là sans faire aucun effort. C'est tout Dieu qui avait fait les prodiges et les miracles. Puis ils ont sorti de là avec toutes les richesses de l'Égypte. Ils ont sorti de là avec sans aucun faible parmi eux. Ils ont eu du tout cuit. Amen. Mais là, Dieu veut apprendre c'est quoi vraiment la disposition de leur cœur envers tout ce que je leur donne. Alors il dit, pour ça, je vais les faire errer dans le désert. Ils vont passer par le désert. Ils étaient supposés de juste passer par le désert. Mais ils ont tellement murmuré et chialé qu'ils ont erré pendant 40 ans, vous le savez. Mais voyez-vous, quand il dit « afin de t'humilier », il voulait vraiment leur faire apprendre qu'est-ce que c'est maintenant que de dépendre de lui, de Dieu. Quand il dit « je voulais l'humilier », les humilier, ça veut dire qu'il voulait voir « est-ce que vous reconnaissez que moi, Dieu, c'est moi qui est prêt à tout faire pour vous ?» Là, je vous ai donné du tout cuit, là. J'ai tout fait, les miracles et les prodiges pour vous sortir. Maintenant, vous passez par le désert. J'aimerais que vous appreniez à dépendre de moi. Combien de vous savez que si on a des enfants, on leur donne tout? Ils sont jeunes, on leur donne tout, le tout cuit. Ils ont tout, les repas. Ils n'ont pas besoin de dire, « Maman, est-ce qu'on va dîner à midi? » Ils le savent que le dîner est là. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête pour dire, « Maman, es-tu sûr qu'on va souper à soir? » On leur donne tout. Mais il y a un jour, on aimerait qu'ils apprendraient à savoir, à reconnaître que nous sommes là pour eux. On aimerait qu'ils apprendraient, on aimerait ça voir la disposition de leur cœur pour voir, « OK, on vous donne tout, mais on aimerait ça savoir. » Puis c'est ça qu'ils appellent humilier. Il les a vraiment laissés aller par eux autres-mêmes pendant 40 ans. Puis il les a laissés aller, puis et même il a dit, ils vont savoir ce que c'est que d'être privés de ma présence. Ils voulaient voir la disposition de leur cœur. Amen. Voyez-vous, lorsqu'il dit éprouver, le mot éprouver, c'est le désert. Lorsqu'il les a laissés éprouver, ça veut dire qu'il les a laissés dans un endroit où ce qu'ils devaient faire les choses par eux-mêmes. Ils ont dû en arriver là pendant 40 ans parce qu'ils ont tellement été mécontents. Alors, ils voulaient voir la disposition de leur cœur. C'est-tu normal que des parents, on aime ça, voir la disposition du cœur de nos enfants? Tu sais, combien de vous avez travaillé, puis même peut-être deux jobs, puis vous avez tout fait parce que vos enfants, ils veulent soit jouer au hockey ou faire du patin artistique ou de la danse, ils veulent prendre des cours de piano. Vous êtes prêts à tout faire. Mais c'est donc intéressant quand on arrive à la place et puis qu'on les laisse comme ça se débrouiller un peu pour savoir la disposition de leur cœur, ce qu'ils reconnaissent qu'on fait les choses pour eux. Dieu voulait savoir s'il reconnaîtrait quelle sorte de Dieu il était. Amen. Alors, il les a pas laissés mourir de faim. Il les a laissés juste souffrir un peu de faim pour voir Est-ce qu'ils vont dire, « Oh, Dieu, il est tellement bon. Il faisait tellement de prodiges lorsqu'on était en Égypte. C'est sûr qu'à un moment donné, il va faire quelque chose pour nous. Il le sait qu'on a faim. » Non, il se mettait à murmurer puis à chialer. Continuellement, mécontent de ci, puis mécontent de ça. Il chialait continuellement. Combien de vous savez qu'il chialait continuellement? Fait que Dieu les a laissés errer pour les laisser sans lui. Puis vraiment, être privé de Dieu, c'est très humiliant. Parce que là, on se rend compte de les limitations que nous avons, puis comment que de nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. La chose la plus humiliante, c'est d'être laissé à nous-mêmes. Amen. Il voulait voir la disposition de leur cœur. Il voulait voir quelle était la disposition de leur cœur quand il n'y en avait pas, puis quelle était aussi la disposition de leur cœur quand ça allait mieux. Parce que si on regarde à Deutéronome 8, alors, il les a laissés un peu souffrir de la faim pour voir est-ce qu'ils vont quand même s'adresser à moi avec respect puis reconnaître comment grandiose puis comment puissant je suis puis comment bon je suis. Mais il les a nourris pareil de la manne. Et puis, on peut voir au verset 11, il dit, là, il parle de quand ils vont tomber dans l'abondance, là, sortir du désert. Il dit, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Voyez-vous, Dieu voulait connaître la disposition de leur cœur quand il les laisserait aller à eux-mêmes. Autrement dit, c'est humiliant de ne plus... Moi, ce serait la chose la plus humiliante de ne plus avoir Dieu avec moi. De ne plus avoir sa puissance puis sa présence dans ma vie, puis d'être laissé à moi-même. Parce que j'étais à moi-même avant de le connaître. Puis je sais dans quoi je vivais. Amen. Dans la peur puis toutes sortes de problèmes dans ma vie. Amen. Mais voyez-vous, il dit, je veux voir la disposition de leur cœur quand ils n'en ont pas. Est-ce qu'ils me rejettent? Est-ce qu'ils chialent? Est-ce qu'ils sont mécontents? Ou s'ils continuent de regarder à moi? Mais aussi quand ils vont être rassasiés, puis ils vont habiter des belles maisons, puis que là, ça va aller bien, leurs affaires, parce que c'est là que je veux les amener. Dieu n'a jamais voulu nous détruire. Au contraire, il veut toujours nous amener à plus. Il dit, je veux voir aussi quel sera ton cœur. Parce qu'il dit, garde-toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde-toi de dire en ton cœur, là, c'est moi qui ai fait ça. Non, parce que quand je t'ai laissé seul dans le désert et que je me suis retiré un peu, tu as vu que ça avait de l'air. Alors, garde-toi quand ça va aller mieux. Autrement dit, quelle sorte de cœur que tu as quand tu n'en as pas, puis quand tu en as aussi. Amen. Donc, quelle sorte de cœur? Voyez-vous, dans Proverbe 4, c'est bon de parler de ces choses-là, surtout dans le temps des fêtes. Amen. Proverbe 4, verset 23, ça dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Voyez-vous, c'est tellement important de garder notre cœur, de faire attention à notre cœur. C'est très facile de tomber dans une série de chiolages. Ça, chioler, c'est facile. Combien de vous savez que c'est facile? Ah, j'aime pas ma cuisine est trop petite, puis j'ai pas de place, puis ah, ça va mal, puis à part de ça, on n'a plus de dessert. Va acheter du dessert, là, on n'a plus de dessert. Qu'est-ce que c'est m'acheter? Arrête n'importe quoi, pourvu que c'est sucré. C'est facile. Combien de vous savez que c'est facile, Jolie? Non, mais c'est facile. Puis on n'a même pas besoin de cours, on n'a même pas besoin de se faire enseigner là-dessus. C'est très facile. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de ton cœur que vont sortir les sources de toute la vie. C'est de ton cœur que vient la vie, autrement dit. Voyez-vous, c'est pas de ton éducation. Ton éducation peut pourvoir à des besoins. Ton éducation peut t'emmener dans un certain niveau de société agréable. Mais c'est pas ton éducation qui va être la source de ta vie. C'est pas tes talents non plus, c'est pas tes avoirs, c'est pas ton intelligence. Mais j'ai déjà vu, il y avait un monsieur, lorsqu'on était à Réma, il a fait toutes les universités possibles de faire. Il a même gradué de l'université de Oral Robert, puis il a gradué dans 2-3 majeurs, quelque chose. Puis il se promenait avec son biret puis son foulard à Réma. Puis là, il voulait graduer de Réma aussi, puis il y avait une autre école à aller aussi. Mon Dieu, qui faisait pitié. J'avais envie de dire, arrête d'apprendre, puis mets en pratique un peu. Arrête. Pratique les choses. C'était un intellectuel. C'est pas ton intellectualité, c'est pas combien grand t'en connais qui va emmener les sources de la vie. Il y a un endroit que la parole de Dieu dit que c'est là que viennent toutes les sources de la vie. Et c'est de ton cœur. Quelle sorte de cœur tu as? Amen. Et c'est pour ça que c'était très important que Jésus vienne pour changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Pour mettre de quoi dans notre cœur? Amen. Parce que c'est de notre cœur que va sortir toutes les sources de la vie. Premièrement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis la bouche, quand elle parle, elle peut donner la mort ou la vie. Fait que c'est mieux que dans l'abondance de ton cœur, il y ait un bon cœur. Amen. C'est de ton cœur que sortent toutes les sources de la vie. Voyez-vous l'histoire de Joseph dans la parole de Dieu? À partir de Genèse 37, on peut lire toute l'histoire de Joseph. S'il y en a un qui aurait pu endurcir son cœur, amener son cœur dans de la haine, amener son cœur à être rancunier, à en vouloir à la société, à en vouloir à sa famille, à en vouloir à tout le monde, à en vouloir à la femme de Potiphar, à en vouloir à tout le... C'est bien Joseph. Combien de vous savez qu'il y aurait eu des raisons de chioler, puis être plus que mécontent, mais bâtir de la rancune? Puis la plus grande chose qu'on peut voir dans cet exemple, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, c'est l'exemple de Joseph dans la parole de Dieu. Il a toujours préservé son cœur. Il faut qu'il ait préservé son cœur pour avoir arrivé à cette vie-là qu'il a expérimentée dans sa vie chrétienne. C'est pour ça que je disais tantôt que les gens expérimentent la vie chrétienne de certaines façons différentes. Tout dépend du cœur. Tout dépend de ton cœur. Si ton mécontentement ou ta joie ou ta reconnaissance. Amen. Joseph, il y avait une chose à propos de lui, c'est qu'il avait un cœur après Dieu, lui aussi comme David. Et puis, il dit, comment être-je, quand il parlait à la femme de Potiphar, un péché contre mon Dieu. Il était plus intéressé, puis être reconnaissant, puis en amour avec son Dieu, que qu'est-ce que le monde pouvait lui faire, ou quelles circonstances dans lesquelles il finissait. Le cœur, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et on voit très bien que Joseph, non seulement il a eu la vie pour lui, puis la vie en abondance, mais il a emmené la vie à toute sa famille, puis à un peuple entier en Égypte. Il a emmené la richesse, il a emmené la gloire, il a emmené toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il préservait son cœur plus que toute autre chose. Amen. Voyez-vous, des fois, les gens, ils me disent, « C'est-tu parce que j'ai fait quelque chose de pas correct, ou il y a quelque chose que j'ai pas fait, ou quelque chose qu'est-ce qui se passe pour que ça y aille mal, là, que j'expérimente quelque chose qui a pas l'air trop bénissant. » Je peux vous dire une chose. Il y a un gars qui a fait une croisière sous-marine, puis il a été vomi sur le bord d'une plage, parce qu'il désobéissait à Dieu. Puis il y a un gars qui a fini dans la cage au lion parce qu'il obéissait à Dieu. Amen. Mais toutes les deux ont fini vainqueurs. Amen. Mais voyez-vous, c'est pas qu'est-ce que tu fais ou fais pas, ou je fais-tu assez, je prie-tu assez, je fais-tu assez ci, je fais-tu assez ça. La parole de Dieu nous démontre l'importance de travailler, la place qu'on doit le travailler le plus, c'est notre cœur. Et ça, c'est vraiment Dieu qui le voit, ton cœur. Sûrement qu'à force de travailler ton cœur, puis de marcher d'un bon cœur, le monde va finir par le voir. Mais voyez-vous, même Joseph, qui a toujours préservé son cœur, quand ses frères sont arrivés au moment où le père mourait, vous lirez dans Genèse 50, au moment où le père est mort, ils sont arrivés puis ont dit d'un coup que Joseph, il déciderait maintenant que paye n'est plus là, de nous sauter dessus puis nous faire payer le prix. Il n'était même pas capable de reconnaître le cœur de Joseph. Fait que c'est pas, on n'est pas là pour que le monde reconnaisse notre cœur. On est là pour que Dieu voit notre cœur puis de laisser sortir de notre cœur les sources de la vie. Amen. Faire plaisir au monde, il va falloir que tu en fasses beaucoup. Nous autres, j'ai entendu une phrase quand j'étais à Domata, et ça disait, ce que tu fais pour avoir du monde dans ton église va être ce que tu vas devoir faire pour les garder. Fait que si tu es flatte tout un après l'autre, à mesure qu'il s'en ajoute un, tu vas flatter longtemps, et pour les garder, il va falloir que tu continues de flatter. Fait que des fois, il y en a qui vont me dire, tu ne me flattes pas sur le bon bord, vire-toi de bord. Parce que je vais continuer de flatter de la même manière. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais vraiment, la place, puis c'est Dieu qui connaît les cœurs. Voyez-vous, le père de David était dans le champ, et puis il était oublié, puis tout ça. Mais Dieu, il dit, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui a un cœur après moi. Amen. Mais c'est important de préserver notre cœur, mais d'être reconnaissant de tout notre cœur envers Dieu. Amen. Voyez-vous, une façon de protéger notre cœur, Colossiens 3. Colossiens 3, et puis je vais lire le verset 15. La parole de Dieu nous dit, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. » Voyez-vous, on n'a pas été appelés à la misère puis aux chicanes. On a été appelés à la paix. « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit « Soyez reconnaissants ». C'est supposé d'être ça qui ressort de ton cœur. La reconnaissance. Amen. On va aller à Hébreux 12. Hébreux 12, j'aime beaucoup ce verset. Au verset 28, la parole de Dieu nous dit « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. » Savez-vous que le royaume de Dieu est inébranlable? Sur la terre, il y a bien des choses qui sont branlantes puis shakantes. Ça peut brasser de toutes les bords. Mais il y a une chose, par exemple, quand on s'adresse à Dieu puis à son royaume, ça reste fixe. Dieu, il est bon. Dieu, il est puissant. Puis Dieu, il est grand. Peut-être vous me direz, si Dieu est si bon que ça, comment ça se fait que, supposons exemple, dans tel pays, ils ont tant de misère? Parce que Dieu n'est pas leur Dieu, justement. Parce qu'ils ont des idoles, parce qu'ils ont toutes sortes de choses qui adorent, sauf le Dieu tout-puissant de la parole de Dieu ici. Mais quand les gens vont et puis il amène la présence de Dieu là, vous remarquerez comment ça change dans les pays. Au Canada, quand tu allais en cours, ils mettaient une Bible, puis ils disaient « jure sur la Bible ». Ça veut dire qu'ils voulaient dire à ce moment-là, ça, c'est l'autorité qu'on a ici au Canada, la parole de Dieu. Mais tant qu'ils vont faire ça, puis tant qu'ils vont mettre Dieu en premier, le Canada va bien aller. Moi, j'ai toujours dit, Jacques Cartier a planté une croix, puis une croix va demeurer sur mon pays. Amen. Ça dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant qui veut dire il est puissant. Amen. Alors, ça dit, montrons notre reconnaissance, rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Ou on pourrait dire ceci, je l'avais écrit, en montrant à Dieu un culte qu'il mérite. Il le mérite qu'on soit reconnaissant. Combien de vous avez vu la puissance de Dieu agir dans vos vies? Vous vous en alliez d'une direction, ça l'a changé de bord. Dieu a mis sa main puissante, il a fait prospérer les choses à laquelle vous vous appliquiez, où il vous a guéri, où il a transformé vos familles, où il a apporté la paix que vous avez besoin. Le monde dans le monde, il paierait cher pour avoir la paix qu'on peut avoir en Dieu. De s'en aller sur la route, puis tout d'un coup, on revient dans quelque part, puis il fait pas beau, puis il y a une tempête, et puis on peut demander, « Seigneur, je te demande de me protéger, je demande que les anges soient là pour m'amener à bon port, pour que tout aille bien. » Combien de vous savez que c'est la plus grande chose qu'on peut avoir, c'est de savoir que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? De connaître Dieu comme nous le connaissons. Amen. C'est un royaume inébranlable qu'on peut s'adresser à lui continuellement, mais le culte qui lui est agréable, c'est rendez grâce à Dieu. Soyez reconnaissants. Amen. Gloire à Dieu. Dans Proverbes 3, 5. Dans Proverbes 3. Et le verset 5, ça dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. » Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous savez, l'homme peut avoir une grande sagesse. Amen. On peut acquérir même beaucoup de sagesse. On en a besoin dans le naturel. Mais la plus grande sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. Des fois, il va te dire de faire des choses d'une certaine façon, puis après avoir agi sur qu'est-ce qu'il nous demande de faire, on va dire, « Hey, il y a une chance. » On a toujours ce mot-là dans la bouche. Au lieu de dire, « Merci Seigneur, je suis béni », les gens vont dire, « Une chance que j'ai fait ça de cette façon-là. Waouh, ça a été encore plus que je pensais. » Amen. Merci Seigneur, reconnais-le dans toutes tes voies. Le reconnaître, c'est vraiment être reconnaissant de ce qu'il fait, qu'il est présent, il est là. Amen. Voyez-vous, on va juste tourner à 1 Samuel 17. Je vais juste passer par cette écriture-là avant de... Ici, ça parle de David. Tout le monde connaît David, le jeune garçon qui a osé affronter Goliath. Amen. Et moi, ce que j'aime de David, c'est qu'il savait reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Parce que quand il a vu que l'armée avait peur du géant, toute l'armée au complet, il a dit, « Je vais y aller, moi, me battre contre lui. » Et au verset 31, ça dit, « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. » David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre contre lui, avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu es un enfant et tu es un homme, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, puis quand un lion ou un ours venait, en enlever une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Ben va et que l'Éternel soit avec toi. » Moi, ce que j'aime de David, c'est qu'il reconnaissait que c'était l'Éternel. Il dit, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, puis il me délivrera de la main de ce Philistin. » Ce que j'aime, c'est que des fois, les gens veulent s'attaquer aussitôt qu'ils viennent au Seigneur, puis ils connaissent un peu la parole de Dieu, puis ils ont la foi. Ils veulent s'attaquer tout de suite aux Philistins, aux géants. Commence par l'ours. Va voir, après ça, attends tes lions. Amen. Puis après ça, tu iras voir ton géant. Amen. Et ce que j'aime à propos de lui, c'est qu'il reconnaissait Dieu dans les petites choses qu'il faisait. Il était dans le champ en train de prendre soin des brebis et il reconnaissait, il disait, « L'Éternel me délivrait de ça. » L'Éternel, il le reconnaissait dans toutes ses voies. Il était reconnaissant que c'était l'Éternel. Savoir être reconnaissant envers Dieu, c'est reconnaître qu'il est là. Le reconnaître. Moi, toutes les choses qui se passent, la parole de Dieu nous dit que toute bonne chose descend du Père des Lumières dans les cieux. Tout ce qui se passe dans ma vie, même si mon mari, quand il arrive au remois, puis il dit « Je t'aime », c'est bon. Merci Seigneur. Il dit « Puis moi, c'est correct, continue de m'aimer. » Non, mais toute bonne chose vient de Dieu. Amen. Toute bonne chose. Je reconnais que Dieu est en arrière de tout ça. Parce que si Dieu ne m'aurait pas sauvé, puis que je serais restée comme j'étais auparavant, même vous autres, vous ne m'aimeriez pas. Amen. Puis mon mari ne pourrait pas dire « je t'aime ». Fait que c'est pour ça que quand il dit « je t'aime », quand il dit « je t'aime », je dis « merci Seigneur ». Parce que je le sais que Dieu est là continuellement. Amen. Je le reconnais dans toutes mes voies. Avoir de la reconnaissance, c'est reconnaître Dieu. Ça dit, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. Il va toujours faire quelque chose. Voyez-vous cette femme-là qui disait, moi, je prie. Puis je suis là, puis elle disait à Brother Reagan, je comprends pas ça, tous les services, j'en manque pas un. Le Seigneur, il dit, il y a juste un problème. Il faut que je sois capable d'aplanir ses sentiers. Parce que Dieu est fidèle à sa parole, c'est inébranlable. Il dit, j'aimerais qu'elle me reconnaisse. Arrête de demander, puis commence à reconnaître que moi, je suis un bon Dieu, que je peux prendre soin de toi, que j'existe, que je suis puissant, que je suis là pour toi, que je t'aime. Reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. Alléluia. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. La vie dans le naturel, elle nous apporte à peu près 10% des choses, mais 90% du résultat que qu'est-ce que la vie peut nous apporter autour de nous autres va avec la reconnaissance que nous avons des choses. De quelle façon on répond aux choses? De quelle façon vous répondez quand vous voyez les choses se passer? Je vais demander aux musiciens de tous revenir. Je vais tourner au psaume 103 parce que c'est exactement le psaume que j'avais choisi ce matin. Merci Seigneur. David, qui le reconnaissait dans toutes ses voies, disait ceci. Au verset 1, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne les iniquités. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui couronne de bonté, te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et c'est lui qui fait justice. Amen. Il nous fait droit à nous, les opprimés. Amen. Merci Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. La louange, la reconnaissance, l'adoration, c'est l'expression de notre âme et non pas de nos talents. C'est l'expression de notre cœur devant Dieu. Amen. C'est combien on est reconnaissant. Puis David, quand il est mort, ça dit qu'il est mort âgé. Merci Seigneur, puis rassasié, riche, amen, pour être certain, je vais juste le lire dans 1 Chronique 29, c'est en quelque part à gauche dans la Bible. Verset 28, ça dit, « Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, rassasié de richesses et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. » Ça veut dire qu'il est mort vieux, âgé, puis il avait réussi avec son fils. Merci Seigneur, ça c'est encore meilleur. Amen. Dieu, il veut notre cœur. Fait que ce matin, je pensais qu'on prendrait un temps pour lui donner notre cœur. Amen. Pour le reconnaître. Amen. Vous allez dire, oui, mais moi, dans ma vie, ça ne va pas. Mais justement, on va le reconnaître ce matin. On va le reconnaître. Commencez à regarder toutes les choses qu'il a faites dans votre vie, jusqu'à maintenant. Premièrement, il faudrait reculer jusqu'à 2014 ans passés, quand il est mort sur la croix pour nous. Parce qu'il prenait notre place. Ceux qui mouraient sur la croix, c'était les brigands, les méchants, les malhonnêtes, ceux qui étaient remplis de péché. Amen. Les voleurs, les menteurs. C'était la mort qu'il leur donnait. Puis Jésus, qui n'a jamais failli en rien, qui était l'agneau parfait de Dieu, a décidé de mourir comme s'il était un voleur, un méchant, un brigand, un violeur, un menteur. Parce qu'il prenait notre place, amen. Fait que déjà là, on peut commencer à être reconnaissant pour ça. Après ça, il a souffert en son corps, la parole de Dieu dit, afin qu'on ne souffre plus, amen. Après ça, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, parce qu'il était riche sur cette terre. Et par sa pauvreté, il voulait que nous, il prenait notre place, il prenait nos problèmes, il prenait nos difficultés. Il prenait même les erreurs et les problèmes qu'on peut faire d'avance. Parce qu'il voulait changer ça. Il disait, je prends ta place. Combien de vous, quand vous avez un enfant malade, la première chose que vous pensez, c'est, j'aimerais bien mieux être malade à sa place. Mais c'est exactement, on ne peut pas penser mieux que Dieu. C'est exactement comme ça que Dieu pensait. Dieu lui a dit, on va prendre leur place. Jésus, mon fils, tu vas y aller. Puis tu vas prendre leur place à la croix. Tu vas mourir comme si tu serais un brigand, un méchant. Tu vas porter tous les péchés du monde. Tu vas souffrir en ton corps. Qu'est-ce que le monde pourrait souffrir plus tard? Tu vas te faire pauvre. Parce que tu vas porter leur pauvreté. Puis nous autres, on va leur donner l'inverse. La prospérité. Merci Seigneur. Fait que ce matin, on va prendre un temps pour être reconnaissant. Je vais vous demander de vous lever debout. Puis la première chose à laquelle on peut être reconnaissant, c'est d'être sauvé. Fait que si vous voulez, on va prier ensemble la prière que la parole de Dieu nous demande de faire. Parce que la parole de Dieu dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce qu'il faut croire du cœur. Tout se passe dans notre cœur. Quand tu crois dans ton cœur, puis tu le dis avec ta bouche. Alors si vous voulez, on va prier. Père éternel, Je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie en abondance. Seigneur Jésus, je te reçois comme le sauveur de ma vie. Merci d'avoir tout accompli pour moi. Alléluia. Alors on va le remercier en le louant maintenant, en étant reconnaissant.